Dans ces podcasts, j'invite des penseurs, des praticiens, des artistes, des femmes et des hommes dont le travail m'inspire, que j'aime et qui m'aident à vivre. Et j'ai eu envie de partager mes enthousiasmes avec vous. Dialogue parce que je crois à la vertu de l'écoute et au bonheur du partage. Dialogue parce qu'en un temps où tout devient un peu trop formaté et lyophilisé, j'ai voulu prendre le temps d'écouter des personnes qui ont consacré leur vie à penser, à créer, à faire. Dialogue pour permettre à mes invités de déployer leur engagement et leur conviction sans que leurs paroles soient coupées en petits morceaux. Dialogue pour pouvoir être transformé en les écoutant, transformé par une parole vraie.
Ma conviction profonde, c'est qu'on est en train de changer de civilisation et qu'on ne s'en rend absolument pas compte. On voit bien les effets du numérique, de l'intelligence artificielle, mais ce qui se passe, nous ne le voyons pas, nous ne le comprenons pas. Pour essayer d'y voir plus clair, je reçois dans cet épisode de Dialogue Bruno Patino, qui est vraiment aujourd'hui l'expert le plus sérieux, le plus engagé et le plus clairvoyant sur cette question. Vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Je suis vraiment très content de te recevoir. Tu fais un travail de pointe, livre après livre, pour essayer de nous montrer la situation dans laquelle nous sommes. Essayer de montrer qu'il y a presque un changement de civilisation. En te lisant, je me dis souvent ça. Alors, on va parler un peu ensemble de ce changement. Comment t'es venu de travailler sur cette question que tu appelles ici le fait qu'on est dans la submersion?
En fait, ça m'est venu par un constat presque banal du changement de nos vies. Moi, je travaille dans l'univers des médias. C'est mon métier depuis maintenant de très nombreuses années, de très nombreuses décennies. J'ai été mêlé à l'aventure des débuts de l'Internet, on va dire ça comme ça. Je travaillais au journal Le Monde à l'époque. Et donc, dans le développement de la plateforme numérique du Monde. Et puis, j'ai écrit des livres, d'ailleurs, sur la modification de l'information à l'ère du numérique, mais c'était il y a plus de 20 ans. J'ai écrit beaucoup de livres sur le numérique. Et puis, à un moment donné, m'est venue l'idée, alors maintenant banale, mais ça fait maintenant une dizaine d'années, quelque part entre l'idée qu'on se faisait de l'irruption de cette nouvelle technique et le changement qu'il y avait dans nos vies, puisque c'est ça qui m'intéresse désormais, il y avait peut-être des espaces à étudier, peut-être un gouffre qui s'était ouvert. Et en fait, ce qui m'a intéressé, à partir, on va dire, de la civilisation du poisson rouge qui a dû paraître, je crois, c'est en 2018 ou 2019, donc maintenant un certain temps, c'est d'essayer de comprendre, de poser des mots, comme on dit, sur quelque chose qu'on constate tout le temps autour de nous. Alors, pour la civilisation du poisson rouge, c'était des choses aussi banales que la dépendance au portable, que quand même ce qui m'inquiétait beaucoup, petit à petit, la transformation du débat en combat, ce qu'on appelle la polarisation de l'espace public. Et puis j'ai tiré ce fil, et aujourd'hui Submersion, qui est mon dernier livre effectivement, je parle de la fatigue qui parfois peut être la nôtre. Et il faut bien voir le renversement. On travaille dans cet univers, on se dit on va donner accès à tout. Et au début de l'irruption d'Internet, c'est on donne accès à tout. Et pour ceux dont toi, j'imagine, moi en tout cas, qui ont vécu avant ça, quand l'accès à l'écrit, à l'image, à l'image animée, à la connaissance, à l'information, demandait un effort, c'était rare, il fallait attendre souvent, et tout d'un coup avoir accès à tout, c'était une promesse formidable. Et comment cet accès à tout, à un moment donné, peut s'inverser et comment on peut ressentir un sentiment d'envahissement, c'est-à-dire j'ai plus accès à tout, mais je me sens envahi partout, et comment on peut, à un moment donné, subir soit une fatigue, soit un découragement, soit une sorte de retrait. Et c'est ça qui m'a intéressé, en fin de compte.
Tu parles, donc il y avait un projet d'Internet qui était une forme d'horizontalité complète, et tu montres très bien que ce projet ne s'est pas réalisé, cette utopie d'une horizontalité, et au contraire, qu'il y a une polarisation dans les mains de quelques-uns, et que c'est entièrement aujourd'hui un outil capitalistique de, où on est dépossédé de soi-même.
En fait, oui, tout à fait. C'est-à-dire que si on essaye de synthétiser, on peut le voir de deux choses. D'abord, la première chose, c'est pas confondre la technologie et l'économie de la technologie. Ça, je pense que ça, c'est très important. Moi, je ne suis pas du tout technophobe. Je suis ni technophile, d'ailleurs. Je constate les avancées technologiques. Ça fait partie de l'être humain de construire des innovations technologiques. Et je ne vois pas en quoi le rythme pourrait, à un moment donné, se ralentir ou ralentir. Mais si on essaye de synthétiser, ce que je fais un peu dans la dernière partie, mais peut-être pas aussi clairement que ce que je vais te dire là, je pense qu'en fait, on a vu deux mouvements différents. Et on peut les dater très précisément dans l'histoire. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler l'utopie du réseau. Et l'utopie du réseau, ça fait très longtemps qu'elle existe. Je m'amuse dans le livre à mentionner une expression ancienne de cette utopie du réseau qui date du XIIIe siècle. C'est l'espèce de... moine, théologien, chercheur, Raymond Lund, qui était espagnol, qui à un moment, pour moi, incarne cette utopie du réseau. Il avait créé quelque chose qui mettait en relation, sous forme papier, les concepts différents. Parce qu'il se disait, plus on met en réseau, plus on fait se rencontrer de façon aléatoire, les idées, les concepts, les consciences, plus on va créer quelque chose qui va nous rapprocher, alors lui, pour lui, de Dieu, évidemment, il était moine, mais c'était cette idée de l'utopie du réseau, c'est-à-dire qu'en mettant ensemble nos réflexions, notre connaissance, etc., c'est une utopie très forte qui a présidé au début de l'Internet. Tout d'un coup, cette horizontalité que tu mentionnes très bien, ce fait que nous allions tous pouvoir partager des choses, a été une utopie extrêmement forte qui existe encore. Et pour ma part, je ne l'ai pas complètement oubliée, et en tout cas, je ne la gomme pas. Elle sous-tend encore le fait qu'on peut utiliser ce réseau pour partager des expériences comme la nôtre en ce moment, pour se mobiliser pour des causes, pour faire de l'économie du partage, etc. Et d'ailleurs, dans les débuts de l'Internet, dans les années 90, dans la deuxième moitié des années 90, il y a eu cette déclaration un peu étrange qui s'appelait la déclaration d'indépendance du cyberespace. C'est le début de l'utopie. C'était John Perry Barlow, qui était un homme très étrange, libertaire, à la fois parolier du Grateful Dead, fermier, ayant fait des tas d'expériences étranges avec Timothy Leary aussi, mais qui était très inspiré par Teilhard de Chardin. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer John Perry Barlow, et lui était persuadé que le réseau, l'Internet, c'était la noosphère de Teilhard de Chardin, c'est-à-dire une conscience universelle qui agit comme une couche supplémentaire dans notre humanité. Et on retrouve tout ça dans l'utopie du réseau, et qui a d'ailleurs sous-tendu le fait qu'on ait dit il ne faut pas intervenir dans cette conscience universelle en train de se créer. Il ne faut pas la réguler, il ne faut pas donner des règles, bas les pattes, les gouvernements, les États. Ici, c'est ce qu'il disait dans sa déclaration, de bas les pattes. Ici, c'est un territoire nouveau qui se crée. Donc l'utopie du réseau, elle est très forte, elle continue à exister. Mais l'autre chose qui est arrivée, qui s'est invitée de façon peut-être... prévisible, mais en tout cas dans des dimensions qu'on ne pouvait pas imaginer, c'est ce que j'appelle l'économie de la donnée. C'est-à-dire, c'est le capitalisme des données. Et donc, on ne va pas ici faire un cours historique. Je mentionne, ça arrive au milieu des années 2000. Tout d'un coup, ces services qui se créent, qui rendent des services, la recherche, le moteur de recherche, la mise en relation de personnes, etc., rentrent en bourse, doivent trouver un modèle économique. Le modèle économique qu'ils trouvent, eh bien, finalement, d'abord, c'est un modèle publicitaire. Hein, et le modèle publicitaire, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, certes, qu'il faut pousser les gens à passer le plus de temps possible sur leurs écrans pour leur vendre de la publicité, mais pour qu'ils soient très efficaces, hein, ça veut dire que plus j'ai de données, plus je sais de choses sur l'utilisateur, à la fois sur qui il est et sur la façon dont il se comporte, plus j'ai une publicité efficace. Et donc c'est le moment dans lequel toute l'économie de l'Internet va commencer à extraire, et la notion d'extraction est très importante, le plus de données possible des individus. Et je pense qu'on peut s'arrêter deux secondes là-dessus. Ce n'est pas seulement les données qui sont nécessaires pour rendre un service. Par exemple, si moi je suis juste un GPS, j'ai besoin de savoir où je vais et d'où je viens et où je vais. Ça, c'est les données nécessaires pour me rendre le service de ma localisation. Mais les plateformes Internet vont à un moment donné extraire le plus de données possible de l'utilisateur. C'est-à-dire, si je prenais cette métaphore du GPS, et c'est juste une métaphore là, demander mais qui il est, pourquoi, quelle est sa taille, quel est son revenu, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il mange, etc., etc., pour commencer à lui proposer des tas de services associés. Et c'est cette économie de la donnée qui, en ce qui me concerne, provoque une très grande partie de tout le dysfonctionnement dont j'ai parlé et dont je parle, à la fois, et ça se démontre très bien, à la fois la dépendance aux écrans qui est un produit, j'allais dire, de cette économie des données et un produit recherché, puisque ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires, cette polarisation générale qui est la nôtre, et puis in fine, ce sentiment d'envahissement ou de submersion qui peut être le nôtre.
J'interromps quelques secondes l'épisode pour vous dire merci. Si vous êtes sur ma chaîne et vous êtes si nombreux à écouter Dialogue, c'est que vous êtes intéressé à prendre soin de vous, à avoir souci du monde, à vouloir développer plus d'affection, de tendresse, de chaleur dans ce monde qui en a bien besoin. Et si vous voulez être au courant de tout ce que je propose, de dialogues, de cours, de rencontres, c'est tout simple. Inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous et vous recevrez même un petit cadeau. Voilà, je reviens maintenant à la suite de ce dialogue.
Alors, un des grands sujets, évidemment, qui me passionne, c'est tout ce que tu écris sur l'attention, de livre en livre, et de montrer... C'est ça que je disais au début, qu'il y a quand même une sorte de révolution sociale. Nous perdons la capacité de faire attention. Le résultat de ce que tu viens très bien de décrire, de cette économie, fait que notre attention est volée. Et là, on ne s'en rend pas très bien compte, mais c'est un phénomène extrêmement majeur. J'ai une amie qui a fait un test et qui est ressorti, mais complètement catastrophé, parce qu'ils font ça aux États-Unis, ils ont montré que sa capacité d'attention était beaucoup plus faible qu'elle ne le pensait. Et elle s'est dit, et elle a vu, ce qu'elle ne croyait pas du tout, à quel point le téléphone et tout ça faisait que son attention était de plus en plus fragmentée. Et pour la première fois, on se connaît depuis 10 ans, elle m'a dit, mais là, il faut vraiment que je me mette à la méditation, il faut que je réapprenne à faire attention, parce que je ne sais plus faire attention. Et peut-être on peut essayer de décrire ça. Comment on a perdu la capacité de faire attention? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, on va à la fois l'expliquer et le décrire. On peut commencer par le décrire. C'est-à-dire que, évidemment, aujourd'hui, moi, je ne suis pas du tout neurologue et médecin, hein, évidemment, mais des gens font des études et des recherches sur est-ce que notre cerveau est en train d'être modifié ou pas. Et à ma connaissance, aucune étude aujourd'hui n'est véritablement conclusive dans ce domaine-là. En revanche, si on regarde nos comportements, et là, ça se mesure, le comportement, ça se regarde, etc., ça, évidemment, il est absolument indubitable que tous nos comportements d'attention, de concentration, de silence ont absolument changé. Ça se voit dans tous les univers éducatifs, mais même médiatiques, etc. Et moi, je m'amuse souvent à dire aux gens, même si vous pensez que vous... Si vous n'y croyez pas, vous avez plein de petits indicateurs qui vous montrent. Par exemple, quand vous allez au cinéma, regardez le raccourcissement de la durée des plans. Quand vous montrez aujourd'hui à quelqu'un qui a 20 ans, et qui a été élevé, si j'ose dire, au cinéma moderne. Vous lui montrez un film fait dans les années 50, il va vous dire « c'est lent ». Et en fait, ce n'est pas que l'action est lente, c'est que les plans sont beaucoup plus longs. Vous regardez dans les romans, ce qui se publie beaucoup aujourd'hui, et surtout le raccourcissement des chapitres. Si dans le métier qui est le mien, la télévision, la façon dont s'enchaînent les actions à un moment donné, et c'est là où je veux en venir, dont on hameçonne l'attention, on va vous rappeler un moment, vous savez, il y a cette fameuse symphonie qui s'appelle « La surprise » de Haydn. Et Haydn était compositeur à la cour, et donc il s'était aperçu que souvent, ceux qui l'écoutaient s'endormaient. Et donc, il s'est amusé dans une symphonie, à un moment donné, à faire de façon complètement impromptue un coup de cymbale. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle La Surprise, parce que ça réveillait l'auditoire. Et donc, il avait remarqué qu'en gros, toutes les 7, 8, 9 minutes, l'auditoire s'assoupissait comme ça. Et donc, plam, l'orchestre fait un bruit. Et donc, ça réveille. Aujourd'hui, si je reprends la même image, c'est pas toutes les 7 ou 8 minutes, c'est toutes les 7 ou 8 secondes. Si un de mes livres s'appelle « La civilisation du poisson rouge » et que les spécialistes du poisson rouge ne m'attaquent pas en disant que c'est une image, une métaphore, c'est parce que je raconte que dans un séminaire Google auquel j'ai assisté, un séminaire YouTube plus exactement, il y avait cet ingénieur qui disait « Voilà, le temps d'attention du poisson rouge, légendairement, il est de 8 secondes ». Et encore une fois, c'était une image qu'il avait. Nous avons mesuré le temps d'attention aujourd'hui de la génération qu'on n'appelait pas encore Z, mais qui s'appelle Z. Si au bout de 9 secondes, quelque chose ne s'est pas passé, il s'ennuie. Il passe à autre chose. Donc on a l'habitude aujourd'hui, on peut le mesurer dans toute notre vie, d'être à la fois sursollicité à un rythme extrêmement court. Ça produit de la dopamine parce qu'on regarde la récompense, ça produit un effet de récompense et on devient, entre guillemets, dépendant de cet effet de récompense permanent. Donc, à chacun de nous, mesurez le nombre de fois où vous regardez votre portable pour voir si vous avez reçu une alerte, regardez le raccourcissement des plans. Donc, ça se constate partout. Et évidemment, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des médias, dans le domaine, tout ça se constate et ça se voit dans la modification même des œuvres où on hameçonne. Je veux juste une anecdote avant de rentrer dans l'explication. Au tout début, quand je faisais de l'Internet pour Le Monde, il n'y avait pas encore ce qu'on appelait les smartphones. Il y avait encore des téléphones portables avec ce qu'on appelait encore des textos et pas encore les SMS. Et arrive la personne qui était là pour nous proposer de nous vendre la solution de faire des alertes par texto. Et c'était après le 11 septembre 2001. Il nous dit, voyez, quand il arrive quelque chose d'aussi majeur que le 11 septembre 2001, vous serez en mesure de faire une alerte aux gens qui seront abonnés à votre service sur un téléphone portable. Tout ça, c'est évidemment maintenant dérisoire. Mais l'important, ce qu'il nous dit à l'époque, attention, on a fait des petites études utilisateurs, les gens ne supporteront pas plus d'une alerte par semaine. Donc mettez-vous d'accord, voilà, mettez-vous d'accord avec vos collègues, vos concurrents, etc., pour que chacun ait sa semaine, si j'ose dire. Et franchement, si vous faites plus d'une alerte par semaine, les gens vont se sentir envahis. Aujourd'hui, la moyenne statistique des notifications qui sont les nôtres, c'est-à-dire des alertes, c'est près d'une centaine. C'était 70 il y a 4 ans, c'est près d'une centaine.
Par semaine
? Par jour. Donc on est à 800, 700 alertes semaine. Vous imaginez ? Donc, comme la grenouille qui ne se rend pas compte que l'eau est portée à ébullition dans cette fameuse image on vit en étant hameçonné et sursollicité. Pourquoi ? L'explication, elle est extrêmement simple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'économie de la donnée, c'est l'économie de l'attention. C'est-à-dire, on essaye de faire en sorte qu'on passe le plus de temps possible sur les plateformes. Et pour passer le plus de temps possible sur les plateformes, pour nous vendre le plus possible de publicité, d'abonnement ou autre. C'est toute cette économie de la donnée et de l'attention qui fait. Et comme on a des données individuelles sur chacun de nous, on est capable de le faire de façon extrêmement efficace. Donc, l'ensemble des plateformes ont développé un certain nombre d'outils pour nous faire rester le plus longtemps possible sur ça. Ce qui a tout changé, cette économie de la donnée et cette sursollicitation, elle n'arrive pas, si tu te souviens bien, dans les premiers temps de l'Internet, personne n'en parle. Entre 2000 et 2006, Personne ne parle de la dépendance aux écrans, personne ne parle de la capacité d'attention. Au contraire, on est encore dans le moment où on parle de la bibliothèque d'Alexandrie, universelle, accessible à tous, etc. Parce que le smartphone change une chose absolument fondamentale dans notre vie, c'est la connexion permanente. C'est-à-dire que nous l'avons auprès de nous, 24 heures sur 24, et beaucoup d'entre nous ne l'éteignent même pas quand ils vont dormir. Ce qui veut dire que si tu pars du principe que pour beaucoup de plateformes, ce qui vaut de l'argent, c'est notre temps d'attention, le temps qu'on va rester sur cet écran-là. Ça veut dire que si vous êtes une télévision, si tu es une télévision classique, avant l'arrivée de tout ça, tu sais que tu vas devoir attirer l'attention de ton téléspectateur le moment, le temps qu'il passe par jour sur son canapé devant son téléviseur. Donc 3h30, tu vas avoir 3h30 par jour pour essayer de d'hameçonner la personne dans la recherche d'audience. Mais si tout d'un coup, tu as un objet que les gens ont avec eux 24 heures par jour, tout le temps, l'objectif, c'est d'essayer de capter le plus possible ces 24 heures. Y compris, et c'est là où j'y arrive, quand les gens font autre chose. Quand ils sont en train de travailler, quand ils sont en famille, quand ils sont au cinéma, quand ils écoutent de la musique, quand ils sont même en train de s'aimer, puisqu'on a des statistiques sur le nombre de personnes qui regardent leur portable pendant qu'ils ont une relation amoureuse. Et elle est dingue, cette statistique, c'est plus de 20% des gens. Et donc, si tu veux, ils vont donc développer des outils de notification, de sollicitation pour dire « Coucou, je suis là, regarde, tu as reçu ce message, regarde ce qui se passe, je te propose ceci, je te propose cela, regarde. » Donc, ils vont commencer à ce qu'on appelle du « brain hacking » en américain, c'est-à-dire à hameçonner ton cerveau, mais on n'est pas du tout en science-fiction là, juste à faire des notifications, des petites alertes, etc., pour en permanence attirer ton attention, quand bien même tu fais autre chose. Surtout si tu es en train de méditer en silence, surtout c'est, ils vont te dire « Non, reste pas tranquille, regarde-moi, parce que si tu me regardes, pour mon chiffre d'affaires, c'est bon. » Et une fois que tu seras sur ces plateformes, ils vont développer un certain nombre de mécanismes pour te faire rester sur cette plateforme qui va encore plus perturber ton mécanisme d'attention. Et il y a un mécanisme assez connu qui est celui qui, encore une fois, rien de tout ça n'a trait ni à la science-fiction ni au complotisme. D'ailleurs, parce que tout ça est étudié, mentionné. Il y a des travaux, par exemple, d'un laboratoire à Stanford, qui est le laboratoire de captologie, qui est dirigé par un monsieur qui s'appelle B.J. Fogg, à Stanford, donc l'université au cœur de la Silicon Valley. Et eux, ils disent très bien, c'est dans leur programme, nous marions les computer science, donc les sciences informatiques, avec les neurosciences, pour faire en sorte que les gens restent le plus possible sur les plateformes. Voilà, c'est l'objectif. Et donc, par exemple, beaucoup de plateformes utilisent le mécanisme de la récompense aléatoire. La récompense aléatoire, c'est ce qui fait marcher les machines à sous au casino. Ce qui fait que, parce qu'on perd souvent, on gagne parfois, et très très rarement, on gagne énormément, on finit par être dépendant de la machine, enfin, des personnes finissent par être dépendantes de la machine et jouer de façon compulsive. C'est la dépendance au jeu. Ça a été très bien étudié par quelqu'un qui s'appelait Burrus Frederick Skinner dans les années 30. Il a fait tous ses travaux là-dessus, à base de souris et de pigeons. Bon. Eh bien, ce laboratoire-là a conseillé aux plateformes, et notamment Facebook, Meta ou autres, dans leur gestion de contenu algorithmique, de mettre en œuvre ce système de récompense aléatoire pour justement nous rendre dépendants.
C'est-à-dire, concrètement, par exemple, qu'est-ce que c'est une récompense aléatoire ?
Ce que disait Burrus Frederick Skinner, il donnait l'exemple d'une souris qu'il avait enfermée dans une boîte transparente. Et dans cette boîte, il y a un distributeur de nourriture, un bouton. Et donc, il avait testé deux situations. La première situation, à chaque fois que la souris appuie sur le bouton, de la nourriture tombe. C'est un distributeur classique. On s'aperçoit qu'il faut très peu de temps pour que la souris devienne maîtresse du bouton. Elle appuie quand elle a faim. Le reste du temps, elle va qu'à ses occupations, dans sa roue, elle fait d'autres jeux. Et puis quand elle a faim, elle va vers le bouton, elle appuie, elle prend. Et puis voilà. Donc elle est maîtresse de l'outil. Et puis d'autres fois, on a dit, tiens, on va faire se comporter ce distributeur de nourriture comme une machine à sous. Donc elle appuie et souvent, il ne tombe rien. Parfois, il tombe un peu. Et rarement, il tombe énormément de nourriture. Exactement comme une machine à sous dans laquelle on peut jouer du jackpot. Qu'est-ce qu'il a vu au bout d'un certain temps ? Eh bien, la souris ne quittait plus le distributeur et appuyait de façon compulsive sur le bouton, quand bien même il y avait encore de la nourriture plein saccage, parce qu'elle n'avait pas tout mangé quand elle avait énormément gagné de choses. Donc, souvent, elle ne gagnait rien, parfois, elle gagnait beaucoup, et parfois, elle gagnait peu, et rarement, elle gagnait beaucoup.
C'est horrible.
Nourriture. Et donc, la nourriture, là, c'était plus la souris qui est maîtresse de l'instrument, mais l'instrument qui devient maître de la souris, puisque la souris ne le quitte plus et appuie de façon compulsive sur ce distributeur de nourriture.
Mais comment ça se passe concrètement dans nos téléphones portables ?
Je vais expliquer. Donc, c'est ce qui explique les machines à sous, ce qui fait que les gens restent dépendants des machines à sous. Dans nos téléphones portables, sur un fil qui peut être un fil TikTok, un fil Facebook ou autre, l'algorithme mélange les contenus et va faire en sorte que souvent, c'est très satisfaisant pour toi. Mais souvent aussi, ça ne t'intéresse pas. Et parfois, ça t'intéresse un peu. Donc, va se comporter comme une machine à sous. Contrairement à ce qu'on pense, l'algorithme ne va pas toujours pointer ce qui t'intéresse le plus tout le temps, à tout moment. Ah. Donc, il y a ce mélange-là de cette récompense aléatoire dans un certain nombre d'algorithmes. Et donc, c'est une récompense. Et donc, on reçoit un petit peu de dopamine, et c'est sympa. Et ça nous rend dépendants de ça. Et sur beaucoup de choses, beaucoup de fils, cette récompense aléatoire-là est un mécanisme d'organisation des contenus. Fait que, par exemple, sur une plateforme de rencontre, à un moment donné, y a des gens qui pourront nous correspondre très... soit on scrolle, soit on swipe, suivant la plateforme, dans le sens horizontal ou vertical, mais on va s'apercevoir que souvent, il y a des... formidable, peut-être, etc. Et cette espèce de récompense aléatoire. Alors, il y a beaucoup d'autres systèmes qui sont utilisés, l'effet de complétude, ça, c'est typique, hein, c'est l'autoplay. Sur YouTube, qui fait que nous, êtres humains, on adore compléter les tâches. Il y a quelque chose dans notre cerveau qui fait que quand on commence quelque chose, même si ce n'est pas totalement satisfaisant, on a envie de le terminer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un autoplay. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as terminé quelque chose, il y a tout de suite un autre truc qui s'enchaîne derrière, parce que ça va favoriser effectivement ton mécanisme de continuer à le faire de façon compulsive, parce que on aime bien avoir ça. Ou il y a l'effet aussi d'expérience optimale, qui fait que, par exemple, sur un certain nombre de jeux, on sait que si l'expérience est trop facile, tu vas te lasser vite et tu vas arrêter. Si c'est trop difficile, au bout d'un certain temps, tu vas te lasser aussi. Donc, il faut que ça soit ni trop difficile, ni trop facile pour que, finalement, tu fasses ça de façon permanente et récurrente. Donc, encore une fois, rien d'illégal, rien même, entre guillemets, de contestable, à la limite, si ton économie est l'économie du temps des gens, c'est normal que tu essayes de leur en extraire le plus possible. Et surtout, rien de secret, rien de complotiste. Mais le problème, c'est que cette économie-là, il y a deux problèmes. D'abord, elle a un outil à sa disposition, qui est un outil qu'on a avec nous 24 heures sur 24 et qu'on n'arrive pas à laisser de côté. Donc, même la nuit, on va recevoir des alertes, des messages. Et l'autre problème, ou l'autre impact, c'est que comme toutes ces plateformes ont des capacités d'extraction de données extrêmement puissantes, de notre identité et de nos comportements, eh bien, elles peuvent être quand même tout à fait performantes. Et donc, j'essaye de dire dans les livres, dans la civilisation du poisson rouge, dans Submersion maintenant, etc., c'est que une des conséquences de notre vie, en fait, c'est qu'on ne se rend pas compte que ce qui est extrait de nous en permanence pour nourrir cette économie numérique, c'est notre temps. Et donc, effectivement, il y a un double phénomène. C'est à la fois l'accélération, c'est-à-dire qu'on essaye en permanence d'augmenter de façon économique, là, je mets des guillemets, productivité de notre temps. Regarde quelque chose. Moi, je fais beaucoup, dans les livres, j'essaye de faire à la fois un peu de mention philosophique, mais aussi de pop culture ou littéraire ou autre. Mais j'aime bien aussi les petits exemples qu'on ne voit pas, alors qu'ils sont devant nous. Tu te rends compte que quand même, sur les plateformes vidéo comme Netflix ou YouTube, tu peux regarder aujourd'hui les séries en accéléré. Et beaucoup le font. Et qu'on m'explique. Je comprends qu'on puisse essayer de lire, j'allais dire, en accéléré, quelque chose dont on a besoin pour le travail, par exemple. Mais à partir du moment où tu dis que tu regardes une série pour le plaisir, ou tu lis un livre, un roman pour ton plaisir, qu'est-ce que ça veut dire de là où on en est qu'il faille que tu puisses le regarder à 1,5 fois ou 2 fois la vitesse normale ? Et de plus en plus de gens le font. qu'est-ce que ça veut dire de notre rapport au temps ou de ce qui est devenu l'extraction de notre temps que on trouve tout à fait normal de pouvoir écouter les podcasts en accéléré, regarder les vidéos en accéléré, écouter les chansons en accéléré. Et que ça soit devenu un phénomène tellement important que toutes les plateformes le proposent parce que sinon il y a une demande. Donc elle, je les comprends très bien. Il y a une augmentation de la productivité, si j'ose dire, de notre temps. La seule chose que tu puisses pas regarder en accéléré, c'est les publicités. Tu remarqueras ce qui a tendance à confirmer un peu tout ce que je suis en train de te dire tout à l'heure. Mais ça veut dire quoi? Le moment où tu te dis, tu t'imagines rentrer dans un cinéma, on te dit, bon, alors là, vous pouvez voir ce film-là en vitesse normale, et puis là, finalement, ce film qui dure 3 heures, vous allez pouvoir voir en 1h30 à 2 fois. C'est quand même étrange de se dire que même là, on nous propose une accélération. Donc, première conséquence, c'est l'accélération générale de cette extraction de notre temps. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, comme il y a une compétition féroce pour ce temps, il est de plus en plus notifié, sollicité. Donc, de plus en plus, il y a des gens qui tapent à notre porte en disant « Coucou, je suis là, coucou, pense à moi, regarde-moi en permanence. » Et donc, pour en revenir à... Pardon, j'étais très long, mais à ta question, c'est qu'effectivement, on sent bien, nous, quand on dit qu'on a de moins en moins d'attention, de moins en moins de choses de concentration, c'est pas que notre capacité individuelle est en train de diminuer. C'est qu'on est comme une mine à ciel ouvert dans lequel il y aurait des gens qui extraient en permanence la matière qui est notre temps. Donc on a de moins en moins de temps pour nous, puisque ce temps-là est pour tout ça. C'est, en fait, moi je disais toujours, avant dans le domaine du numérique, on disait c'était service for data, on rend du service contre la donnée. C'est vrai, mais en réalité, si tu vois que la donnée, elle sert à extraire notre temps, du coup c'est en fait du service contre notre temps. Donc tout ce service, tout cet environnement qu'on a et qui apporte des choses extraordinaires. Moi, encore une fois, je suis pas du tout technophobe. Je suis pas du tout pour dire on brûle les téléphones portables, on va en haut de la montagne. En fait, en ce moment, on a du service for time, c'est-à-dire du service contre notre temps. Et donc, évidemment, les gamins, les ados, nous-mêmes, on est tous en permanence sursollicités sur cette valeur extraordinaire qu'on a et qui vaut beaucoup d'argent, qui est notre temps. Et donc, c'est pour ça qu'on a de moins en moins de temps pour nous, de temps qu'on extrait de cette économie-là, c'est-à-dire le temps qu'on est capable d'extraire du marché, si j'ose dire, du temps qui peut être de concentration, d'ennui. L'ennui n'existe quasiment plus. Le temps même, je le dis dans le livre à un moment donné, du désir, en réalité. Pour que le désir existe, il faut qu'on ressente un manque, il faut que quelque chose... Non, on est aujourd'hui rassasié, ce que je dis là, avant même d'avoir désiré. Et donc, tout ce temps pour nous, ben non, il a été extrait. Et
le temps de la vie est nié, au fond. Le temps de la vie, dans ce que ça demande de patience, d'ennui, de désir...
D'attente.
Oui. D'attente. Donc là, c'est une forme de déshumanisation très profonde.
En tout cas, la première conséquence de cette accélération générale, c'est évidemment notre perte de contrôle sur notre temps.
Alors, tu montres beaucoup de conséquences. Une autre conséquence, c'est l'insomnie. Tu inventes ce mot. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as inventé.
Oui, je l'ai inventé.
C'est un très beau mot. Si tu veux expliquer.
En fait, comme je le dis, moi, je parle aussi de nos expériences personnelles. J'essaie de faire des livres qui sont à la fois pas du tout des livres techno, qui soient pas des livres non plus, enfin, parce que moi, ça, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire aussi à partir d'un ressenti qui peut être le mien, mais dont je pense qu'il peut être partagé. Essayer de tirer le fil de ce ressenti, à la fois de l'évoquer, de l'expliquer, et de voir un peu comment on en est. Et donc, sur ce livre-là, chacun a son expérience personnelle, mais en fait, l'insomnie, si on n'arrive pas à dormir, et l'insomnie, je parle de ça parce que je commence ce livre en me disant, voilà, en fait, depuis que j'ai un écran bleuté allumé auprès de mon lit, celui du téléphone portable, en réalité, le sommeil n'est jamais vraiment totalement le sommeil. D'abord, il y a les notifications qui arrivent, parce que à un moment donné, si j'arrive pas à dormir, je vais commencer à rentrer dans mon téléphone portable en me disant 3 minutes, j'y reste, et puis 1 heure après, j'y serai encore. Et donc, je parle de cette insomnie comme étant une incapacité à avoir un sommeil réellement profond, comme étant pas vraiment une insomnie parce que j'essaye même plus de dormir. Je suis sur des rails à un moment donné de cet accès général et de cet envahissement par l'ensemble des choses qui arrivent. Et en réalité, je tire ce fil dans Submersion parce que je remarque une chose, mais qui est une chose peut-être un peu étrange à dire ça, mais en fait, on parlait de l'accélération, il faut parler aussi de l'amplification. C'est-à-dire que depuis maintenant un certain nombre d'années, on ne se rend pas compte que cette espèce de flot d'images, de sons, de textes, etc., dont je disais autrefois c'est accès à tout, maintenant c'est l'envahissement, ne cesse d'augmenter. Alors on va me dire, c'est pas grave, c'est très bien, c'est une richesse. Oui, mais. Et le livre, là, c'est oui, mais. C'est-à-dire, en plus, parce que je remets ça... toujours, moi je crois en fait qu'il y a assez que la rupture numérique elle existe, et après à l'intérieur c'est des vagues. La première vague, ça a été la vague de l'accès général. La deuxième vague, avec l'économie de la donnée, etc., ça a été la vague de la viralisation permanente. Et donc, et puis arrive cette troisième vague maintenant sur les intelligences artificielles génératives. Et pour le moment, en tout cas, moi je suis pas du tout, je participe pas du tout à la réflexion transhumaniste et autres. Pour le moment, c'est un instrument qui va provoquer deux choses de même sens pour moi, qui est une augmentation encore, qui provoque une chose avec deux facteurs, c'est une augmentation encore presque, j'allais dire, illimitée de tous les contenus qui vont être produits, texte, images, sons et autres. D'abord parce que la productivité de la production va augmenter encore très fortement grâce aux IA génératives. On le voit déjà dans le domaine de l'information, on le voit dans le domaine de la musique et autres. Et puis par ailleurs, parce que les IA, elles vont produire elles-mêmes à un moment donné. Bon. Et donc, cette submersion, ce flot va encore s'accentuer. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire si à un moment donné, nous-mêmes, quand on est sur une plateforme vidéo, on a accès à 40 000 programmes. Si 40 000 est le vrai chiffre, hein. 41 000 exactement. Si je suis abonné à une plateforme de streaming, j'ai accès à 100 millions de titres. Enfin, entre 81 et 100 millions de titres. On imagine ce que c'est d'avoir ça. Bon. Et donc, ça va continuer à augmenter. Ça nous semble tout à fait normal. Et je constate, et après, je vais essayer de tirer le fil, je constate que ça, de la même façon que le fait d'être sursollicité en permanence nous fatigue, parce que ça mange notre temps, ça aussi, ça nous fatigue dans notre vie. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que, et je peux prendre un exemple précis, on constate, on a fait faire cette étude-là, Fondation Jean Jaurès, Arte, mais Oxford, l'Université d'Oxford l'a fait, le Pew Research aussi. Par exemple, dans le domaine de l'information, on s'aperçoit qu'il y a ce qu'on appelle la fatigue informationnelle qui touche un Français sur deux, et que 34% ne veulent plus s'informer parce qu'il y a trop d'informations. J'en ai marre, je me retire. Je pense, mais peut-être c'est ma formation, que ne plus s'informer, c'est grave, parce qu'on ne participe plus à l'espace public, au débat public, au vote de façon éclairée. Et je me dis juste, je constate quand même que dans beaucoup de cas, il y a comme cette fatigue qui nous prend tous, cette lassitude, il y a trop de trucs et je ne sais plus quoi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ?
Donc là, c'est important, une seconde. Tu montres qu'il y a un renversement. On croit que le fait qu'on ait plein de données va nous permettre de mieux choisir. Et là, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que ça nous empêche de choisir.
Exactement.
Et donc là, il y a un renversement très radical que tu es en train de décrire.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a deux idées majeures dans ce livre Submersion. C'est tout ce flot de contenu, ça a deux conséquences. Moi, je suis toujours dans les conséquences, c'est ça qui m'intéresse. La première conséquence, qui peuvent s'imbriquer de façon un peu problématique, la première conséquence, c'est qu'on n'arrive plus à choisir. Et donc, quand on n'arrive plus à choisir, on fait deux choses. Et je vais expliquer pourquoi après. On fait deux choses quand on n'arrive plus à choisir. La première chose, on peut faire deux choses. La première, c'est ben, on laisse tomber. On procrastine infini. Il y a un auteur américain, une autrice, on dit maintenant, qui appelle ça la procrastination infinie. Donc, on ne peut plus. On dit, je laisse tomber. Je choisis plus. Donc, on se retire du monde de certains trucs. Tu me dis, si on se retire d'une plateforme vidéo, c'est pas grave. Oui, non, c'est pas grave. Si on se retire du débat public, de l'information, c'est déjà plus grave. Bon. Ou la deuxième chose, on délègue. Je sais pas choisir, je choisis à ma place. Bon. Alors, si on délègue à la personne avec qui on vit, un ami, ou etc., là aussi, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe quand l'économie numérique de la donnée qui n'attend que ça, on délègue aux algorithmes. C'est-à-dire, on délègue à une façon qu'on a de nous calculer. Donc, juste pour expliquer pourquoi le choix, on a tous grandi, en tout cas moi le premier, avec cette idée qu'il y avait une identité entre le nombre d'options qui nous sont proposées et la liberté qui est la nôtre. Que si je te donne le choix entre deux options, et que si demain je te donne le choix entre 15 options, ben, t'es plus libre quand tu as le choix entre 15 options que quand tu as le choix entre deux options. Et on a tous grandi avec cette idée-là, très nourrie par la philosophie des Lumières, d'ailleurs. C'est-à-dire que...
Et qu'on peut constater, c'est vrai.
Mais bien sûr que c'est vrai.
Si je veux avoir 15 choix, je suis plus libre que si j'en ai que deux. Si je peux lire que deux livres, j'ai moins de choix que si je peux lire 15.
Voilà.
Mais...
Mais c'est là où, si je veux dire, le bas blesse, c'est si à un moment donné, de façon horizontale, au lieu de te proposer 15 livres, je t'en propose 450 000.
Je ne peux plus savoir quoi faire.
Et ben voilà.
Sauf si j'étais très, très, très bien formé et éduqué à l'avance. Et donc, ça renforce l'inégalité. Ouais. Si j'étais très bien formé, là, je peux réussir à savoir m'orienter.
Sauf si tu savais auparavant ce que tu voulais choisir en réalité.
Oui. Mais sinon...
Grâce à l'éducation.
Voilà. Mais sinon... Si je n'ai pas une très bonne éducation, voilà. Je n'ai aucune possibilité de me repérer et de savoir faire la distinction entre ce qui est vraiment ce que j'ai besoin, ce qui va m'éclairer, ce qui est juste de seconde main, ce qui est de premier ordre.
Alors, il y a des tas de choses qui nous montraient déjà ça. Et par exemple, dans le domaine de la télévision, tous les professionnels savent que, évidemment, quand les gens ont trois chaînes, ils zappent entre trois chaînes, ils sont très heureux. Quand ils ont 12 chaînes, ils zappent entre 12 chaînes et ils sont très heureux. Tu vas me dire, bon, jusqu'à là, Bruno, c'est normal. Quand ils ont le choix entre 50 chaînes, ils zappent entre 17 chaînes, pas 50. Bon. Et quand ils ont 450 chaînes, ils zappent entre 10. Donc, à un moment donné, il y a un rendement décroissant des options qui sont proposées. Alors, il y a un monsieur qui est... qui s'appelle Barry Schwartz, qui a fait un livre très important, enfin, que je considère important, qui est maintenant un peu ancien, qui s'appelle « Le paradoxe du choix ». Et où il explique tout ça. Où il explique, je crois qu'il enseigne à Harvard, enfin, en tout cas dans une grande université américaine, et il explique que quand on dépasse un certain nombre d'options, alors on ne sait plus choisir. Ou, si on choisit, on est malheureux. Et c'est ce qu'il appelle le paradoxe du choix. Et il donne un...
Oui, on est malheureux parce qu'en choisissant, quand j'ai 400 000, en choisissant, ben je me dis, mince...
Il y en avait sans doute un de mieux.
Un de mieux, et de toute manière, ça ne sert à rien. Parce que quand j'en ai 15, je me dis, au moins, là, je peux avoir un 15e du savoir.
Il donne un exemple très simple. Il donne un exemple avec des jeans, même avant le numérique. Il dit, voilà, il a une corpulence moyenne, une taille moyenne. Il dit, moi, avant, quand j'allais dans une boutique d'une certaine marque, d'une célèbre marque de jeans... Pour ma corpulence et ma taille, il y avait trois modèles différents. Je prenais les trois modèles, j'allais dans la cabine d'essayage, je les essayais, et quand je sortais de là, j'étais content. J'avais pris le temps pour choisir, j'avais calculé bien toutes les options, j'avais regardé dans le miroir comment ça m'allait, j'avais demandé conseil au vendeur ou à la vendeuse, et je sortais de là, j'étais content. Puis, 20 années plus tard, je rentre, pour ma corpulence et ma taille, il y a 45 modèles différents. Qui va essayer 45 modèles de jeans? Personne n'a le temps pour essayer 45 modèles de jeans. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déléguer son choix. Donc, il va se tourner vers le vendeur ou la vendeuse et va dire, à votre avis, etc. Et si ça se trouve, le vendeur sera très ou la vendeuse sera très compétent et lui dira, ben, sur cela, essayez les trois. Essayez ces trois-là. Il va essayer les trois. Et comme il le dit, et si ça se trouve, celui qui va m'être donné va m'aller beaucoup mieux que celui de l'expérience précédente. Et pourtant, je vais sortir de la boutique triste. Pour deux raisons. La première, c'est que je n'aurai pas l'impression d'avoir fait le choix moi-même. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Donc, je n'aurai pas vraiment exercé ma liberté en réalité, puisque j'aurai délégué le choix de ma liberté. Et le deuxième, c'est que comme il y avait 45 modèles, comme tu l'as dit très bien, mes attentes ont considérablement augmenté. Et donc, forcément, même si le truc me va très bien, je me dirais toujours qu'il y en avait sans doute, sans aucun doute, un qui me serait allé encore beaucoup mieux.
C'est affreux.
Donc, attente en hausse, capacité d'exercice à liberté en baisse, donc le choix est impossible. Et donc, le choix, on n'est plus en mesure de faire notre choix. Et donc, face à tout ça, et encore une fois, je ne suis pas en train de dire du tout qu'il faut réduire l'offre. Hein. C'est ce que je dis à un moment donné dans le livre, c'est pas qu'on produit trop, c'est qu'on ne sait plus choisir.
L'abondance rend le choix impossible. Oui. Il y a des lois au fond. Tu nous montres quand même qu'il y a des lois de fonctionnement de notre esprit dont nous sommes ignorants et que, disons, ce que j'appelle moi ce changement de civilisation fait que si on ne comprend pas les lois de notre esprit, qui est très bien compris par ceux qui s'occupent d'Internet et de nos téléphones, on n'est plus du tout libre sans nous en rendre compte. Il y a une ignorance du fonctionnement de notre cerveau. Par exemple, ça, c'est une loi. L'abondance rend le choix impossible, mais nous restons avec un schéma ancien qu'au contraire, si j'ai abondance, je peux mieux choisir.
Oui.
On est très démunis conceptuellement pour faire face à la situation parce qu'elle ne ressemble pas à la situation
précédente.
Et donc, nos références intellectuelles, nos manières de penser, notre manière de penser la liberté correspond à un monde qui n'est plus le nôtre et on est démunis. Au fond, en lisant tes livres, on apprend un peu mieux à être en rapport à la situation qui est la nôtre, dont nous sommes au fond, bizarrement, alors qu'on vit dedans, assez ignorants.
En tout cas, j'espère qu'on comprend mieux et j'espère que ça éclaire beaucoup de choses parce que à partir du moment, si on reste un peu encore sur le choix de seconde, à partir du moment où on dit « j'ai trop d'options, je délègue », bon, parce que personne ne sait choisir. Si je te dis « tiens, il y a 41 000 programmes choisis », tu vas déléguer, à moins de le prendre au hasard, mais tu vas déléguer. Donc l'univers numérique te dit « c'est formidable, l'algorithme te connaît, il sait qui tu es, il sait ce que tu aimes, il sait comment tu te comportes habituellement. Et donc, c'est lui qui va faire ton choix parce que lui, il a cette capacité de calcul entre 400 000. Toi, ta capacité de calcul dans les choix, on voit qu'il y a un chiffre un peu magique. Il n'est pas prouvé scientifiquement, mais dans les études, il y a un chiffre autour de 12. C'est-à-dire que jusqu'à 12, on arrive vraiment à... pour les choix de la vie quotidienne. Ils ont fait des tests avec des confitures, ils ont fait des tests avec plein de choses de notre vie. C'est jusqu'à combien d'options différentes on prend du temps pour faire le choix. Donc je ne parle pas évidemment quand il s'agit de choix majeurs dans la vie, de l'endroit où on va vivre ou autre. Je parle de petites choses de la vie qui peut être une confiture, un programme de télévision, etc. Jusqu'à 12, on maîtrise. On aime bien et là, on est pleinement libre. Mais alors, après, au-dessus de 12, commence à devenir compliqué. On n'étudie plus toutes les options. J'ai cherché partout s'il y avait des études dans le domaine politique aussi. C'est-à-dire que si on était capable de dire est-ce que tout le monde lit tous les programmes quand il y a 22 candidats ? Est-ce que tout le monde lit tous les programmes quand il y en a 12, etc. ? Mais aucune étude n'existe là-dessus. Et j'adorerais pouvoir la faire faire. Mais je ferme la parenthèse. Mais donc, l'univers numérique te dit pas de problème, Fabrice, il n'y a aucun problème. L'algorithme te connaît très très bien, c'est exactement ce que tu aimes. L'algorithme a une puissance de calcul qui est un milliard de fois supérieure à la tienne, à la mienne, à la nôtre. Et donc lui, il est tout à fait capable, si je reprends la métaphore, d'essayer les 400 000 jeans et de le mettre en rapport avec ce que tu es et de te dire quel est le jean qui te va le mieux. Donc aucun souci. Et c'est là où moi je me permets de dire si, souci. Souci pourquoi ? Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Quand nos choix sont la résultante d'un calcul et non pas de notre libre arbitre, de notre discernement, c'est un mot comme tu l'as vu dans le livre que j'aime beaucoup, de notre libre arbitre, du temps que l'on prend nous pour faire le choix. Eh bien, il y a d'une certaine façon une réduction. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, c'est-à-dire que le calcul n'est qu'une partie approximative de nous-mêmes. Et donc le choix, et là je ne parle même pas des choses sur lesquelles on est en train de résoudre, qui sont ce qu'on a appelé les bulles de filtre, c'est-à-dire que le calcul te propose uniquement la répétition à l'infini de ton passé, comme ce film Le jour de la marmotte, où Bill Murray se réveille et vit toujours le même jour. Donc l'algorithme, c'est fini ça, l'algorithme qui te propose toujours le même contenu, etc. Évidemment, ils sont capables de mettre de la diversité dans les contenus, etc. Donc je ne parle même pas des bulles de filtre, tout ce qu'on a appelé comme ça. Je dis juste le fait d'être calculé philosophiquement, ça veut dire quoi ? Quand notre vie commence à être la résultante d'un calcul. Je ne veux pas ici ouvrir de débat, moi je n'ai pas de compétences dans l'éducation, mais regarde même la réception ou le stress qu'induit pour tous les jeunes lycéens ou lycéennes le fait de devoir rentrer dans Parcoursup et l'algorithme de Parcoursup qui va à un moment donné déterminer par les choix, etc. D'un point de vue philosophique, et c'est là où je vais en revenir, utilitariste. Un algorithme d'orientation, c'est formidable. Parce que ça calcule, ça permet d'amener de l'équité, calculer de l'équité quantitative, de tout ce que tu veux. Mais du point de vue de la réception de nous, êtres humains, quand les orientations ou les grands choix de notre vie commencent à être le résultat d'un calcul, c'est pas du tout la même réception qui est faite pour nous. On sent bien que là, il y a quelque chose qui coince, si j'ose dire, qui ne va pas.
Ça, c'est très important. Comme philosophe, je ne peux que dire la réduction de tout au calcul. Et ça, c'est aussi un autre rêve. On a le rêve que quand on pourra tout calculer, ben, ce sera bien. Et en fait, c'est une déshumanisation dont les conséquences sont catastrophiques pour chacun d'entre nous.
Et on va tirer deux fils. C'est-à-dire que là, évidemment, je fais moi aussi référence à ça, c'est-à-dire à... Et même à la critique de l'utilitarisme par Bernard Williams, le philosophe, quand il dit que vraiment un système ne peut pas être un agent moral, et donc un calcul non plus. Mais donc je dis, voilà, ce qui arrive là en ce moment, on a parlé d'accélération et d'amplification, c'est ce qu'on pourrait appeler, en paraphrasant Michel Houellebecq, l'extension du domaine du calcul. Donc ce qu'on est en train de vivre en ce moment, et j'essaye de le mentionner dans mes livres, et pour moi, s'il y a une chose contre lequel j'essaye de lutter, c'est pas du tout le réseau, c'est pas du tout la technologie, c'est l'extension du domaine du calcul. C'est que le fait que de plus en plus de parties de nos vies sont calculées et la résultante d'un calcul. Et l'économie de la donnée, c'est ça. L'économie de la donnée, c'est l'extension mécanique du domaine du calcul. Et alors, ça veut dire, je vais prendre deux exemples sur ça. On peut prendre de façon littéraire, par exemple. On se dit, dans les algorithmes de calcul, il y a deux choses qui sont absolument impossibles. La première chose qui est absolument impossible dans un algorithme de calcul, ou qui est considérée comme un échec par l'algorithme du calcul, c'est de te faire trouver quelque chose que tu ne cherchais pas. Je dois te faire trouver quelque chose que tu cherches, par rapport à tes données, etc. Et donc, d'une certaine façon, la surprise que tu ne cherchais pas, tu ne peux pas l'avoir réellement. Je m'amuse avec des références pop culture sur les envahisseurs en disant, voilà, il y a quelqu'un qui cherchait un raccourci qu'il n'a pas trouvé. Tout d'un coup, il voit que les envahisseurs cherchent à envahir la Terre et ça lui donne une mission dans la vie. Et moi, je crois, d'une certaine façon, que la culture, au sens presque noble du terme ou presque, tu vas me dire, religieux du terme, c'est à un moment donné avoir rencontré des choses qu'on ne cherchait pas.
C'est clair, dans la vie, c'est le plus important.
L'amour, c'est ça aussi.
Parce que c'est ça aussi que tu montres. On est coupé de la... Ce calcul et ce système nous privent de la relation.
De la surprise.
Et de la relation.
Et de la relation.
Parce que la relation implique toujours
que
je sors du calcul. Je peux rencontrer quelqu'un que quand je sors du calcul.
Et l'autre chose, ça nous empêche aussi de ne pas trouver ce qu'on cherchait. C'est-à-dire, regarde bien... Va sur Netflix, ailleurs, peu importe, tu vas chercher un programme et imagine que tu cherches un truc précis, ils ne l'ont pas, ils vont te proposer quelque chose à la place en disant que ça correspond à 92% à ce que tu cherchais. Je n'ai jamais compris pourquoi ce pourcentage de 92%, qui est le pourcentage qu'ils mettent en avant. Et pour moi, ça, c'est la quête. On peut passer une vie entière à chercher quelque chose qu'on ne trouvera jamais, et c'est très important qu'on l'ait aussi. Et donc, la culture et la quête sont impossibles dans le domaine du calcul. Il y a l'autre chose qu'on parlait de l'agent moral aussi, tu parlais de la relation et tu parlais... Et évidemment, quand on se dit, on voit aujourd'hui que... moi, ça ne me choque pas d'un point de vue moral que de plus en plus de couples se créent avec des applications de rencontres. Après tout, on rencontrait à l'université ou ailleurs, etc. Je me dis juste, et ce que j'aimerais savoir, c'est jusqu'à quel point ces rencontres-là ont été... j'allais dire, et ça a été procédé de façon algorithmique à un moment donné, c'est-à-dire la résultante du calcul. Sur l'agent moral, je parle dans le livre d'un petit exemple. Il y a encore quelques années, on pensait que les voitures sans conducteur seraient des voitures comme dans la science-fiction, c'est-à-dire qu'elles arriveraient tout... Il y aurait des voitures vraiment sans conducteur tout le temps. Aujourd'hui, on sait que ça va être des moments où la voiture se conduira elle-même. Mais à un moment donné, on pensait qu'il y aurait des voitures sans conducteur 100% du temps. Et c'était il n'y a pas très longtemps, hein. C'était il y a encore 5-6 ans, c'était le modèle sur lequel on travaille. Et donc le MIT avait construit un petit programme qui s'appelait la machine morale, pour montrer justement l'impasse de l'utilitarisme. Je le mentionne dans le livre parce que ça me semble un exemple très intéressant. Ils avaient dit, d'accord, mais qui programme l'algorithme de la conduite? En clair, pour des raisons de sécurité. Quelle va être la priorité de la voiture? Est-ce que la priorité de la voiture, ça va être de dire « je sauve la vie de mon passager, quoi qu'il arrive » Sous-entendu, même si à un moment donné, je dois écraser 4 enfants qui traversent pour ne pas me prendre le poteau. Ou est-ce que l'algorithme va décider à un moment donné de faire un calcul sur à quel moment je sauve la vie du conducteur ou à quel moment je sauve la vie, au dépend de la vie du conducteur, d'une personne dans un cas d'accident? Et donc, le MIT s'était amusé à un moment donné à pousser et à dire, ben voilà, on vous fait un petit jeu, c'est d'ailleurs toujours en ligne, hein, ça s'appelle The Moral Machine, et il te met des questions. Alors au début, c'est très simple. Je suis un conducteur, et puis traverse devant moi un enfant rouge, pour pas l'écraser, je me prends le poteau en béton, il a 3 ans l'enfant, moi je suis un homme qui a déjà vécu sa vie, le calcul est simple. Puis tu avais la situation inverse, quelqu'un de 98 ans, atteint d'une maladie en stade terminal, traverse en plus sans être autorisé, parce qu'elle traverse alors que le feu est vert pour les voitures, donc je l'écrase, dépend de ma vie. Bon, le calcul, c'est bizarre, mais tu le fais. Et puis évidemment, les situations sont de plus en plus complexes. Et tu t'aperçois que le calcul est de plus... Tu arrives dans la réalité du calcul, c'est-à-dire qu'en fait, il faut calculer, il faut avoir des paramètres de calcul de la valeur mathématique d'une vie. Et tu arrives à une impasse. Ce qui m'a intéressé, c'est que non seulement tu vois que c'est une impasse, que c'est épouvantable de commencer à calculer comme ça, comme le font une compagnie d'assurance pour à un moment donné décider de combien est d'indemnisation le prix d'une vie en permanence dans nos calculs, mais ce que tu t'aperçois, c'est que d'autres ont travaillé sur cette machine et ont dit, vous savez que dans presque 90% des cas, quoi qu'il arrive, le conducteur va éviter la personne devant lui, même au péril de sa vie. C'est-à-dire que nous, êtres humains, on ne va pas du tout faire le calcul. On va avoir à un moment donné, alors je ne sais pas si c'est un réflexe moral ou philosophique, on va se dire non, je sauve la vie qui est devant moi, même aux dépens de ma vie. Et donc le monde du calcul nous amène dans un utilitarisme qui n'est pas celui de l'espèce humaine. Et évidemment, pour finir avec ça, en plus de ça, le calcul n'est que la réduction de la caricature de nous-mêmes. Et donc ça nous met en interaction que des caricatures de nous-mêmes. Donc voilà, sur le choix, je pense que quand on dit attention, à un moment donné, on n'arrive plus à choisir, donc on délègue à du calcul, mais on rentre dans une civilisation de plus en plus calculée où tous nos choix sont de plus en plus le résultat d'un calcul, donc dans une civilisation de plus en plus utilitariste et de moins en moins humaine. Ça, c'est un des grands aspects du livre, je crois.
Ben écoute, merci infiniment. On t'écouterait pendant des heures, mais je renvoie vraiment les gens à tous tes livres qui permettent vraiment... voilà, de sortir de l'ignorance dans laquelle on est par rapport à cette situation. Je crois que c'est important aussi que tu ne donnes pas de solution. Ce n'est pas « voilà ce qu'il faut faire », mais c'est vraiment nous renvoyer à notre liberté et comprendre un peu l'ensemble du fonctionnement de la situation, de notre esprit et puis de ce projet de calcul généralisé au nom d'un capitalisme extrême. Ben, merci infiniment, Bruno.
Merci à toi, Fabrice. Merci beaucoup.
Ben voilà, j'espère que vous êtes convaincus que la méditation, c'est vraiment la solution pour retrouver un peu de liberté. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous aurez plein d'informations sur ma chaîne YouTube sur ce que c'est la méditation. quand elle n'est pas justement au service de la, du contrôle et de la rentabilité, mais quand elle est au contraire une manière de nous rendre un peu de notre liberté. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.